Vous êtes d'accord? Pas d'accord? Vous êtes pas d'accord? Eh ben, on vous envoie une petite milice ouvrière. Parce que figurez-vous que le gouvernement, il a changé et que maintenant, désormais, le gouvernement, il est du côté des travailleurs.
Non, mais dans ce cas-là, il n'y a plus de débat démocratique, Nathalie. Bonjour Nathalie Arthaud, est-ce que vous pouvez vous présenter dans un premier temps et nous dire comment ça va? Votre état d'esprit à un peu plus de 80 jours d'une probable élection en tant que présidente de la République.
Donc bon, Nathalie Arthaud, je suis porte-parole de Lutte Ouvrière. C'est un parti communiste révolutionnaire qui veut changer la société de fond en comble. Aujourd'hui, eh bien, je me porte super bien. Voilà. Aujourd'hui, je suis particulièrement contente parce qu'aujourd'hui, il y a une grosse grève dans l'éducation nationale. Il va y avoir une grosse manif et ça fait du bien qu'on entende la colère. Donc voilà, je suis
J'ai vu ce matin qu'il y avait probablement 30 à 40% de professeurs qui sont grévistes. Les syndicats avaient donné 75%. Est-ce que c'est les syndicats qui mentent dans l'histoire qui est...
Non, mais c'est énorme. De toute façon, ouais. C'est déjà énorme. C'est énorme. Il y a énormément d'écoles fermées, de profs là qui disent « ça suffit, quoi ». Ça suffit d'être traité comme ça, d'être commandé hein, en dépit du bon sens, de se moquer complètement de ce que nous, on pense, de comment il faut faire les choses. Et ça, c'est vraiment une marque de fabrique de cette société, hein, où finalement, en haut, il y a ceux qui décident, ceux qui donnent les ordres. Hein, alors, c'est le gouvernement, c'est le patronat, le grand patronat, hein, d'abord. Puis en bas, bah voilà, il y a les exécutants, les travailleuses, les travailleurs et les profs, comme les autres, en fait, hein. On est traités comme des pions, on est censé obéir, on est censé être des bons petits soldats, on est censé obéir aux ordres les plus stupides. Bon, à un moment donné, voilà, c'est... À un moment donné, ça met en colère, et ben c'est vraiment une bonne chose.
Alors, il y a deux choses. 30, c'est pas 75%, dans un premier temps, mais vous allez y répondre. Et dans un deuxième temps, est-ce que vous pensez que les partis de gauche, traditionnels ou pas, ont soutenu, appelé, pris parti pour que cette grève se passe dans des bonnes conditions?
Non, mais moi, je ne vais pas, je vais pas trancher sur un chiffre.
Oui.
Le vrai chiffre, on ne le connaîtra pas.
Oui.
Il ne viendra pas du gouvernement. Ils ont une méthode. Bon, moi, par exemple, je prends mon cas. Je suis prof à Aubervilliers.
Et prof d'économie.
Prof d'économie-gestion à Aubervilliers. Je dis, je ne travaille pas, je n'ai pas de classe. Je ne vais pas être comptabilisée dans les grévistes. Sauf que moi, je suis gréviste. Et que si j'avais travaillé, je serais vraiment déclarée en grève. Et là, je vais aller à la manifestation. Donc, vous voyez, les chiffres, ils peuvent être trafiqués comme ils veulent. Souvent, par exemple, dans mon lycée, comment c'est recensé? C'est quels sont les profs qui devaient être présents à 8h du matin et qui sont présents? Mais ils ne refont pas le comptage à 9h, ils ne refont pas le comptage à 10h. Mmh. Donc, tous ces chiffres-là, c'est du pipeau. Mmh. Ce qu'il faut voir, c'est la réalité des choses. Je crois qu'on a assez de moyens, parce qu'on est des parents, parce qu'on sait comment ça s'est passé à l'école, pour mesurer qu'il y a un mouvement de colère qui est de fond. Moi, je pense que ce mouvement de colère, il devrait en fait s'étendre. Moi, je rêve à une épidémie. Une nouvelle épidémie, voilà, une épidémie de lutte, de grève. Je pense que, oui, je pense qu'il faudrait qu'il y ait les hôpitaux, je pense qu'il faudrait qu'il y ait les ouvriers, je pense que la situation, voilà, elle est plus tenable. Ouais. Bon, il faut qu'on défende nos intérêts.
Le protocole sanitaire dans les écoles de Jean Castex, il est flou pour vous?
Mais il est juste...
Ou alors c'est mal expliqué?
Il est impossible à tenir, voilà, ouais. Il est impossible à tenir, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, et c'est surtout... C'est ça le problème, mais enfin, on n'est pas en grève contre le protocole, hein. Le protocole, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Oui.
On est en grève parce qu'ils se moquent de nous. Parce que, pour utiliser une expression un peu à la mode, on travaille en mode dégradé.
Ouais, comme la coupe de cheveux, dégradée.
En mode dégradé, comme, des logiciels, hein,
ouais.
Voilà, un système d'exploitation, on est en mode dégradé parce qu'il n'y a plus de remplaçants, parce qu'il manque des profs, parce qu'il manque des agents d'éducation, parce que les AESH, ceux qui accompagnent les jeunes handicapés dans les écoles, ils sont traités vraiment, sont sous-payés, ils sont méprisés, parce qu'il n'y a pas assez d'agents de service, enfin voilà, donc c'est l'ensemble qui remonte aujourd'hui.
Oui, mais alors, pardon, mais Gabriel Attal...
Et qu'on est mal payé
oui.
aussi.
Alors, Gabriel Attal, en conférence de presse, a dit que, et c'est peut-être vrai, vous allez me dire ce que vous en pensez, que les autorités de santé publique donnent des avis concernant l'école, mais pas que sur l'école, dans toute la société française, 3, 4 jours avant la rentrée, eu égard à une progression rapide de l'épidémie. Donc, est-ce que quand on vous dit, par exemple, que le gouvernement, que les autorités de santé publique font ce qu'elles peuvent, vous l'entendez ça ou vous balayez ça d'un revers de main ?
D'abord, il y a l'agence de santé, elle ne sait pas ce qui se passe véritablement dans les écoles et dans les collèges et dans les lycées. Mmh. Elle ne sait pas, par exemple, qu'il n'y a plus d'infirmières scolaires. Elle ne sait pas comment ça se passe concrètement. Mmh. Et écoutez, tout ce qu'on décrit les directeurs d'école, là, sur ces derniers jours, c'était quand même du délire. Mmh. Il fallait qu'ils soient au four, au moulin. Ouais. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est dénoncé depuis longtemps. Hein. Depuis longtemps, il est dénoncé que les directeurs d'école, ils doivent faire gardien, ils doivent faire réceptionniste, ils doivent faire agent d'accueil, ils doivent faire nounou, etc. Garderie. Oui. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Ouais. Là, si vous voulez, la coupe déborde. C'est juste ça. Donc, mais il y a une leçon à tirer. C'est que justement, dans des périodes comme ça, des situations de crise, qui est le mieux placé pour savoir ce qu'il faut faire ?
Personne.
Bah si. C'est ceux qui font tourner la baraque.
Oui.
C'est les travailleurs, c'est ceux qui connaissent le boulot, ceux qui savent comment le faire, comment il se passe concrètement, réellement, dans la réalité. Parce que vous entendez Blanquer, mais Blanquer, il va vous dire qu'il y a des remplacements. Mais c'est juste dans sa... Comment dire, c'est dans sa tête, quoi.
Ouais.
Hein,
voilà. Ouais. Votre engagement en politique, il commence avec deux actes qu'on pourrait qualifier de fondateurs. Au moment de la famine en Éthiopie en 1986. Et un an après, vous avez 17 ans, vous êtes une très jeune Nathalie Arthaud, avec la lecture de Karl Marx. Quel était le lien entre ces deux actes, ces deux moments ?
Le lien, c'est que je ne me sentais pas ne rien faire. Je me disais, cette société-là, c'est aussi la mienne. J'ai une responsabilité dans son avenir. Je dois faire quelque chose. Voilà. Alors, j'étais très attirée par l'humanitaire. Hein. Pour moi, c'était l'humanitaire. Ça a été un peu, comment dire, c'était un peu spontané. Mais en tout cas, il fallait que je fasse quelque chose, c'était juste pas possible.
Ouais.
Voilà, de rester spectateur, de ne rien faire. Et puis, c'est vrai que la découverte du manifeste, ça a été quelque chose là qui a complètement changé ma façon de voir.
C'est votre Bible.
Ah oui, on peut le dire. Oui, c'est ma Bible, ouais. C'est bien hein, d'avoir une boussole.
Alors justement, vous dites que vous êtes arrivé à l'étude ouvrière par le catholicisme. Est-ce que ce n'est pas paradoxal quand on sait que Marx était athée ?
Alors, c'est... Moi, en fait, à 17-18 ans, j'ai réalisé que je ne croyais pas en Dieu.
Oui.
Hein? Mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'être en contact avec ce qu'on appelle des militants cathos de gauche, hein,
ouais.
Hein, voilà, qui, justement, étaient très, très ouverts sur le monde, qui étaient très révoltés contre les inégalités, contre... Et en fait, je pense qu'ils m'ont transmis ça aussi. Ils m'ont transmis ça, cette générosité, cet esprit de solidarité. Donc, j'ai hérité de ça. J'ai hérité de ça en laissant la foi de côté, puisque je suis athée, je ne crois pas en Dieu. Mais...
Oui,
je crois en l'humanité,
ouais,
finalement.
C'est plus en termes de valeurs que vous êtes...
C'est en termes de valeurs, ouais. Et politiquement, clairement, là, j'ai découvert que cette société, elle pouvait être changée par une force sociale, qui avait une force sociale, qui avait eu tout un mouvement de révolte, d'insurrection, qui avait existé, qui avait fait d'ailleurs progresser beaucoup, beaucoup la société sur plein de plans. C'était le monde du travail, c'était les opprimés, c'était les révoltés. Et donc, je me suis dit, voilà, plutôt que d'être... forcer à vider la mer à coups de petites cuillères, hein, parce que c'est ça l'humanitaire, hein, c'est que pendant que tu creuses un puits à un endroit ou que tu apportes une pompe à eau à un endroit, l'autre côté, il y a le feu.
Ouais.
Bon. Donc, il y avait la possibilité de la changer, la société.
Ouais.
Donc, pour moi, il faut aller à la racine du problème. La racine du problème, c'est cette société où il n'y en a que pour le fric.
Justement, vous êtes candidate à la présidentielle pour justement renverser, dites-vous, le système capitaliste. Alors déjà, j'aimerais savoir quelle sera votre méthode. Et après, c'est ce que je vous disais en off, Nathalie, c'est que moi, il y a un truc qui est un peu frustrant, c'est que vous êtes candidate à une élection présidentielle qui est symbolique, en fait, qui est la représentative même d'un système que vous-même vous dénoncez. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je me dis qu'il y a quelque part un message, une honnêteté, une sincérité, mais qu'en même temps, vous ne menez pas jusqu'à son terme. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que...
Non, je ne crois pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Moi, je dénonce les profits de Danone, de Total, de... Et en même temps, je mange des yaourts. Hein. Bah oui.
Oui.
D'accord.
Non, mais là, c'est pas question de yaourt ou d'aliments.
Si, c'est une question que la société elle nous met dans un cadre. Il y a un certain nombre de règles. Eh bien, il faut savoir les utiliser, ouais, justement, pour en fait combattre la société. Et là, en l'occurrence, cette élection présidentielle, c'est une occasion quand même de défendre des idées politiques. C'est une occasion, je pense, de se faire entendre. Moi, je joue pas le même jeu. Voilà, je suis finalement. Je fais du hors-piste, ouais, hein, en quelque sorte. Moi, je vise plus que la présidence de la République. Moi, je vise le changement de monde, le changement de la société, parce que je sais que c'est pas en étant présidente de la République que je vais, par exemple, augmenter les salaires, imposer que l'exploitation recule dans les entreprises, faire qu'il y ait plus de riches, de pauvres, qu'on ne soit plus gouverné par les lois capitalistes, parce, ouais, que l'ensemble de l'économie et de la société, elle est gouvernée par les lois capitalistes. Ouais. Ça ne se fera pas du haut de la présidence de la République. Le président de la République ne va pas, avec ses petits bras, hein, et sa belle parole, mettre fin à la crise climatique. Ce n'est pas vrai. Ce, ouais, n'est pas vrai, parce, ouais, que c'est une question d'organisation de la société.
Et ce n'est pas non plus en emmerdant les non-vaccinés... Est-ce que justement,
ah bah ça c'est clair.
Justement, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas une limite qui a été franchie dans la façon qu'ont les institutions, dont le président de la République, de s'adresser aux Français quand on dit qu'on les emmerde, quand on dit que, est-ce qu'il n'y a pas une, il y a un je m'en foutis, est-ce qu'on finalement n'est pas arrivé au bout de quelque chose ?
Non mais moi je pense que la limite n'est pas là. Et la limite, elle a été franchie depuis fort longtemps. Quand on condamne des femmes et des hommes qui sont indispensables à la société à des salaires de misère, quand on les prive de la possibilité même d'avoir un emploi pour gagner leur vie, on franchit déjà là une limite. Quand on condamne des femmes et des hommes qui n'ont pas d'autre choix que d'émigrer, de partir de chez eux, quand on les condamne à vivre à la rue, quand on les traque, quand on... La limite n'est pas franchie. Mais moi, la limite, elle est franchie depuis longtemps. Depuis longtemps. Depuis longtemps, c'est une barbarie, cette société. Hein, où finalement, quand on appartient aux classes populaires, qu'est-ce qu'on fait ? On fait du lèche-vitrine. Vous voyez, ça veut tout dire, le lèche-vitrine. Mais c'est ça. Là, je sors d'une émission où on parlait de gastronomie. mais bon...
Moi, vous avez bien bouffé. Vous n'aurez pas bouffé...
Même pas, parce qu'en fait...
Qu'est-ce qu'on vous a servi ?
C'est moi qui me cuisinait, moi, dans l'émission. Donc, non. non, mais alors, voilà, on va discuter des saveurs, on va discuter, ok, mais il y a quand même 10 millions de femmes et d'hommes qui vivent de l'aide alimentaire, qui n'ont pas le choix, pas le choix de ce qu'ils peuvent manger, en fait. Alors, bon, il faut... Voilà, je trouve que la société marche sur la tête. Elle marche sur la tête. Je sais pas... Moi, je vois que les milliardaires, là, ils ne savent plus quoi faire. Ouais. Alors maintenant, c'est des voyages dans l'espace. Bon, et puis à l'autre pôle, on a des femmes et des hommes qui ont bossé toute leur vie, qui sont à la retraite ou qui travaillent
justement.
Dur. Et puis ils se retrouvent quoi ? Avec du mal à se chauffer ?
Oui, justement, Nathalie Arthaud, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce que vous dites par les médias est occulté par un thème qui revient comme un refrain, qui est celui de la sécurité ? J'ai l'impression que c'est les femmes et hommes politiques, notamment de droite libéraux, qui dictent leurs lois aux médias, qui reprennent à l'envi des thèmes comme la sécurité. On a vu Valérie Pécresse avec la phrase sur le Karcher, Macron avec les emmerdements des non-vaccinés. Est-ce que c'est votre discours qui est noble, finalement pas un discours qui se perd ?
De toute façon, les grands médias qui appartiennent tous quand même à des grands capitalistes, hein, que ce soit Bolloré, que ce soit Bouygues, que ce soit Niels, que ce soit Drahi, la presse écrite y compris, ils portent effectivement l'idéologie de la bourgeoisie. Et je pense que les inégalités, elles sont tellement incroyables, c'est tellement exorbitant, c'est tellement grossier ce qu'on vit. Quand on réalise quand même, on sort d'une pandémie, pour les classes populaires, ça a été extrêmement difficile, beaucoup de souffrance, ça a été un recul à plein de plans. Et puis de l'autre côté, on voit les cours boursiers qui s'envolent, etc. Ouais. Enfin, c'est tellement Le fossé est tellement criant, les ils ont besoin absolument de faire diversion,
ouais.
Ils ont besoin de bouc émissaire, ils ont besoin de nous enfumer, ils ont besoin,
ouais.
Ils ont besoin.
Ouais.
Et le temps qu'on passe à discuter du prénom des uns ou des autres,
oui.
Ou à discuter de la couleur du drapeau, hein, bah, c'est autant de temps qu'on passera pas pour discuter des salaires,
ouais.
Du chômage, de la précarité.
Je remarque quelque chose, c'est que ce thème de la sécurité, il est repris même dans votre propre camp, celui des communistes avec Fabien Roussel, qui maintenant veut se rapprocher d'une gauche, entre guillemets, républicaine, qui reprend à l'envi ce thème de la sécurité. C'est fini, on parlera du nom de la gauche plus précisément dans un instant, mais c'est fini ça, les amitiés entre communistes, mouvement ouvrier, c'est la scission avec le Parti communiste, parce que c'est une scission importante. Le Parti communiste, c'est quand même 3-4% de l'électorat, c'est pas non plus énorme, mais c'est quand même quelque chose. C'est fini ça, du coup, vu que Fabien Roussel, maintenant, se laisse aller à notamment des manifs pour les policiers.
Alors, bon... Moi, je suis communiste révolutionnaire et héritière d'un courant qui a toujours combattu le Parti communiste, parce que c'est un courant trotskiste, hein,
oui.
Qui a toujours combattu le Parti communiste qui...
Oui, mais là, il ne s'agit pas d'idéologie, il s'agit de stratégie électorale.
Non, mais parce que c'est lié, je pense.
Ouais.
Qui, à la fois, a été... comment dire, le relais de la politique stalinienne en France, mmh. Et puis qui a fini par s'intégrer, s'intégrer au système capitaliste et par chercher à le gérer comme n'importe quel parti social-démocrate, mais comme le PS, en fait. Hein,
mmh.
C'est devenu un parti réformiste, un parti de gouvernement depuis fort longtemps,
mmh.
Avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire le nationalisme.
Mmh.
Le nationalisme, le patriotisme...
Ils appellent ça l'aspect souveraineté.
Bien franchouillard, mais Mélenchon... est-ce qu'il ne parle pas de souveraineté ?
Oui, oui, bah, voilà.
Lui aussi. Lui
oui.
Aussi. Mmh. Donc voilà, c'est une vision. Parce que finalement, bah, il ne se place plus du point de vue, en fait,
ouais.
Des travailleuses et des travailleurs.
Mmh.
Et moi, je le vois, par exemple, sur l'aspect... alors, il y a l'aspect sécuritaire, etc. Mais même par rapport aux migrants,
mmh.
Aux migrants, moi, est-ce que la France peut ? Est-ce que... etc. Mais moi, ce n'est pas de ce point de vue-là que je me place. Moi, je me place du point de vue de ces femmes et de ces hommes,
mmh.
Tout simplement.
Oui.
Voilà. Ce sont des travailleuses, ce sont des travailleurs, ce sont des jeunes. Quels sont leurs besoins ? Leur besoin, c'est de circuler, c'est de pouvoir s'installer. Ben, moi, c'est mes revendications, tout simplement. Voilà.
Ouais.
Et je ne me pose pas la question
justement.
Autrement. Et après, sur l'aspect sécuritaire, bon, ben oui, du coup, ils font de la démagogie aussi. Ils font... Parce qu'il ne faut pas nier que quand on vit dans une cité, on peut avoir la vie pourrie. Par des trafiquants, Oui, ça existe.
Mm.
Pour moi, tout ça, c'est un problème social qu'on doit résoudre sur le terrain social, en fait.
Justement, Nathalie Arthaud, Jean-Luc Mélenchon, c'est toujours un réformiste, comme vous le disiez dans Libé, un réformiste qui cherche des solutions pour les travailleurs dans un système capitaliste. C'est toujours
ça ? Clairement, clairement. Mm. Moi, je suis frappée de voir que, par exemple, il s'est engagé à porter le SMIC à 1400 euros net. Alors ça, moi, ça... C'est vraiment la preuve que lui, il cherche finalement le montant du SMIC qui sera acceptable par le patronat. Voilà, que le patronat pourra peut-être mettre en œuvre. Mais moi, mon problème, c'est pas ça. C'est qu'est-ce qu'il faut pour vivre dignement ? Bah, c'est pas 1400 euros, ça, c'est
ouais.
Pas vrai.
Ouais.
Et c'est même scandaleux.
Ouais.
C'est même scandaleux. Pour vivre, quand on fait ses comptes, mais pour vivre... sans avoir à compter, sans se dire « Oh là là, si je suis malade, si j'ai un problème de voiture, etc., je suis dans le rouge, je bascule. » C'est 2000 euros minimum, net. Donc, il faut partir des besoins des travailleurs. Qu'est-ce que... Alors, ce raisonnement-là, hein, de dire bah, « Finalement, bah, on va ménager le chou et la chèvre. » Mais quand on raisonne comme ça,
bah,
c'est toujours les intérêts des patrons qui finissent par s'imposer. Parce que c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont le fric. Et donc, c'est eux qui peuvent faire du chantage et peser sur les politiciens.
Vous dites 2000 euros net, vous, hein, salaire
oui,
minimum.
Oui, 2000 euros net, le minimum.
Comment
le minimum.
Comment vous le financez ?
Eh bien, je le finance exactement comme on finance les dividendes aux actionnaires, comme on finance les profits, comme on finance les grandes fortunes. Voilà. Bah oui.
Oui, c'est clair.
Bah oui.
Oui.
Bah oui.
Ouais.
Moi, c'est quand même fou hein, de voir qu'aujourd'hui, tous ces caprices de riches, que tout ce pognon, personne ne se demande d'où il vient. Comment on finance cet argent-là ?
Ouais.
Comment on le finance ? Bah, on le finance par le labeur de tout le monde, en
ouais.
Fait. En fait, il le pique. C'est un vol. C'est le vol du travail d'autrui. C'est le fruit de l'exploitation. Bah moi, je pense qu'il faut que les travailleurs disent nos revendications, c'est ça. Notre objectif, c'est 2000. Au minimum, des augmentations de salaire pour ceux qui sont au-dessus, parce qu'il y a de l'inflation, etc. Et il est hors de question qu'on recule, on porte toute la société. Donc, c'est nos intérêts d'abord, avant les profits, avant les dividendes, avant les fortunes de quelques-uns.
1968, donc mai 68 que tout le monde connaît, mais surtout 1973 avec la réquisition par les travailleurs, par les ouvriers de l'usine LIP. C'est cette usine qui a été gérée par les travailleurs eux-mêmes qui étaient en grève. Il y avait même une démarche assez artistique. Hein, dans le... Vous qui jouez de la trompette, d'ailleurs, vous me direz... Vous
non, me direz je ne après... joue pas de la trompette.
Non, vous me disiez avant que vous jouiez de la trompette, vous me le direz peut-être après, on y reviendra. Mais est-ce que le temps, l'époque, est encore possible pour ces renversements que vous appelez de vos voeux des travailleurs dans les usines aujourd'hui? Est-ce qu'il peut y avoir une vraie union à ce niveau-là, parce qu'on voit bien que même les syndicats qui poussent à la grève, il y en a qui appellent pas à la grève, il y en a qui ont une démarche politique et intellectuelle différente. Est-ce, comment faire en sorte que tous les travailleurs, tous les ouvriers, en fait, se mettent dans une usine, quel que soit le syndicat, et fassent grève?
Moi, je pense que occuper son usine, se battre collectivement et décider, au final, de gérer son usine en fonction de nos intérêts, correspondant à ceux des travailleurs et de la population, c'est ça l'avenir. Je pense que c'est l'avenir. Je pense que ce n'est pas le problème de mettre d'accord les syndicats ou de... Les syndicats, ils n'appelleront pas à ça. Non, non. Il y aura une révolte, il y aura une mobilisation, y compris indépendante des appels syndicaux, hein, parce qu'en en fait, il y a beaucoup de choses qui se déclenchent et des colères qui explosent en dehors de tout appel syndical. Hein. Mmh. Moi, je pense aux Gilets jaunes, personne ne les a appelés. Hein. Ils sont sortis, ils sont organisés, et de la meilleure façon qu'ils soient, c'est-à-dire en disant « nous sommes nos propres représentants ». Voilà. Moi, je pense que de toute façon, il n'y aura pas le choix. Je n'imagine pas que le monde du travail accepte d'être éternellement sacrifié sur l'autel des profits de quelques-uns, des calculs de quelques capitalistes. Donc je pense que l'avenir, c'est aux luttes. Hein. Et dans ces luttes, ce que j'espère, et en tout cas nous, on veut construire un parti pour qu'il y ait des militants qui, dans ces luttes, justement, proposent d'aller jusqu'à ce que les travailleurs prennent le pouvoir eux-mêmes. Au bout du compte, on a tellement l'habitude d'être commandés qu'on oublie qu'on pourrait le faire nous-mêmes, en fait. Oui. On peut se commander soi-même.
Bien sûr.
Et en fait, ceux qui décident, ils peuvent décider. Ça, c'est sûr, ils peuvent prendre leurs décisions. Hein. Alors, les actionnaires, ils peuvent fixer des objectifs, OK. Mais qui fait que ces décisions deviennent réalité? Y a tout un staff, il y a des chefs intermédiaires. Hein, et c'est parce que tous font le boulot, parce qu'au final, il y a l'ouvrier, il y a l'intérimaire, il y a le stagiaire qui fait le boulot consciencieusement. C'est comme ça que la décision, elle peut vivre. Moi, je pense que... on peut prendre nos propres décisions, on peut être nos propres maîtres. Voilà,
ouais, très
donc
bien.
Voyez, pas de sauveur suprême.
Oui.
On a entre nous les on a notre avenir entre nos mains collectivement.
On ne peut pas faire cette interview Nathalie Arthaud sans avoir une grosse pensée pour Arlette Laguiller.
Ouais.
Par qui vous êtes arrivé notamment via le porte-parole de Lutte Ouvrière que vous avez pris en 2008. Quel est son héritage et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé pour les femmes en politique, mais pas que, dans le syndicalisme aussi? On sait qu'il y a une meilleure représentation des femmes à l'Assemblée nationale. Ça, c'est plutôt un bon point pour vous ou...
Non, mais je pense que de ce point de vue, enfin, je pense que souvent la société est même en avance. Sur les politiciens, les partis bourgeois et sur les notables. Souvent, voilà, c'est dans ce sens-là que ça marche. Dans un parti communiste révolutionnaire comme nous, Lutte Ouvrière, je pense qu'on est aussi en avance sur la société, en fait. Hein, et en particulier au niveau de la lutte des femmes, je crois qu'on n'a pas de preuve à faire, puisque Arlette Laguiller avait été la première femme présentée à l'élection présidentielle en 1974. Et là, de ce point de vue-là, écoutez, nous, on continue... on continue à effectivement porter encore ce combat-là parce qu'il continue ce combat. Dire que les femmes, elles sont aussi capables de se battre que les hommes, autant capables de se battre que les hommes, autant capables d'être des porte-parole, de prendre des responsabilités. C'est vrai dans toute la société, ça doit l'être à tous les niveaux. Donc cette démonstration-là, on continue de la faire et je pense que c'est très bien.
Bien. On arrive à la fin de cette très belle interview, très belle discussion. Hein. Et avant de faire de la trompette, on va vous revêtir d'un manteau, celui de présidente. Imaginons ouais. Nathalie, que demain, vous êtes élue présidente de la République.
Oui.
Dans un premier temps, qui est votre premier ministre?
Alors d'abord, c'est pas impossible, hein.
Bien sûr, c'est pas impossible. Mais c'est ce que je vous dis depuis. Non, mais c'est ce que je vous dis depuis le début.
Si,
hein.
Imaginons qu'il y ait une vague de grève, une épidémie de grève, de lutte, que effectivement on revive un mai 68, que là il y ait une politisation, que là les travailleurs se sentent forts, etc. Ouais. Je peux vous dire que les idées que je porte, de dire que les travailleurs font fonctionner la société, ils peuvent la diriger. C'est à eux de prendre le pouvoir, que le problème, c'est de se battre, oui, pour nos salaires, pour améliorer notre vie quotidienne, mais même d'aller au bout, c'est-à-dire qu'on devienne nos propres maîtres, je peux vous dire que ça fera son chemin.
Mais
qu'effectivement, je peux donc être élu dans ce contexte-là.
Mais bien sûr, mais c'est ce que je vous dis.
Alors, dans ce contexte-là, vous me dites qui...
qui est votre Premier ministre. Mais c'est ce que je vous dis depuis le début.
Il
n'y
en aura pas, évidemment, il n'y en aura pas. Non, si je suis élu, je fais un appel... Un appel à ce que les salariés...
À casser l'Élysée ?
Un appel à ce que les salariés dans les entreprises se réunissent, s'organisent, disent leurs revendications, les portent au patron et disent « ça a force de loi, c'est exécutable immédiatement, on veut ces augmentations de salaire, on veut ces embauches, on veut diminuer ces cadences, on veut plus de pauses, on veut plus... c'est exécutable immédiatement.
Voilà. »
Vous êtes d'accord ? Pas d'accord ? Vous n'êtes pas d'accord ? Eh ben on vous envoie une petite milice, petite milice ouvrière. Parce que figurez-vous que le gouvernement, il a changé et que maintenant, désormais, le gouvernement, il est du côté des travailleurs.
Non, mais dans ce cas-là, il n'y a plus de débat démocratique, Nathalie.
Mais bien sûr que si, au contraire. C'est là que le vrai débat démocratique sera mis en place. C'est-à-dire que c'est enfin ceux qui font tourner la société qui pourront décider, de ce qui va se passer dans les entreprises. Mais ces entreprises-là, elles vivent grâce à qui ? Elles sont construites grâce à qui ? Elles sont entretenues, les machines, etc. Mais... Et ils n'ont jamais leur mot. Les travailleurs n'ont pas leur mot, même sur les protocoles. Vous voyez, on a commencé sur les protocoles. Oui. On n'a jamais...
C'était voulu,
là,
hein.
Là, ça sera...
La boucle est
bouclée. Ça sera la vraie démocratie. Ça sera la vraie Et j'appellerai dans les quartiers ouvriers, faire la même chose. Les femmes... au foyer, d'amener leurs revendications à la mairie et de s'engager et d'être acteur, actrice, finalement, des changements.
Ouais.
Ça sera à eux de les faire vivre. C'est la Commune de Paris, ce qui s'est passé avec les Soviets en 1917. Mais ça serait ça, un gouvernement révolutionnaire. Il serait porté par l'action des masses elles-mêmes.
Ouais.
Pas par, des politiciens, enfin...
Un dieu politique,
Oui,
très bien. C'est la présidence française de l'Union européenne pour 6 mois. C'est important pour vous. Quelle est la place que la France aurait, sous votre quinquennat, pour l'Europe ?
Moi, je ne raisonne pas France. Je raisonne classe populaire. Je raisonne femmes et hommes du monde du travail. Hein ? D'accord ? Parce que quand on raisonne grandeur, importance de la France... Vous pouvez être sûr que c'est la grandeur et l'importance du portefeuille de Bernard Arnault, de Michelin. Mais oui, non, mais je vous assure, c'est
sûr.
Ça.
Non, mais...
Y compris la Commission européenne. L'Union européenne, elle a été construite comme ça pour gérer les affaires de ces
Alors,
gens-là.
Je reformule.
Voilà.
L'Europe Donc, des travailleurs. L'Europe des travailleurs.
Voilà. Alors, la France des travailleurs.
Oui,
la France des travailleurs, l'Europe des travailleurs.
Voilà.
Ok. Très
bien.
Voilà. Je pense qu'une telle France, elle s'adresserait au peuple d'Europe et même au peuple du monde, justement. Et elle serait capable d'entretenir des relations fraternelles, pas de domination, pas des relations impérialistes comme il y a aujourd'hui, où les pays riches vont piller les pays pauvres. Voilà, enfin, d'autres types de relations humaines, d'autres types de relations entre les peuples.
Vous dictez votre loi à Poutine, quoi.
Je pense que Poutine aura des soucis parce qu'il y aura la révolte dans son propre pays.
Ouais.
Parce que tous ceux qui sont opprimés, tous ceux qui seront encouragés. Vous savez, une révolte, une révolution dans un pays, c'est un tremblement de terre qui a des répercussions, où il y a des répliques dans les autres pays, en fait, parce que ça encourage. Ça encourage d'autres opprimés, d'autres damnés de la terre à se lever.
Ouais.
Ce qu'on a vu avec les révolutions qu'on a appelées les révolutions arabes.
Oui.
Écoutez, ça a commencé en Tunisie.
Oui.
Vous avez vu ?
Oui.
Comment cette vague s'est déplacée ?
Ça n'a pas bien fini partout. Hein.
Ça n'a pas bien fini. Ça n'a même pas gagné nulle part.
Voilà.
Ok, d'accord. Mais il y a eu cette révolte. Alors nous, ce qu'on pense, c'est que la révolte, l'esprit de révolte, cette capacité de révolte, elle est là, elle est intacte. Elle est intacte. On n'est pas différent des révoltes. Il faut une politique. Donc, il faut des partis. Il faut des partis qui sachent où taper, qui sachent comment vraiment inverser le rapport de force, comment prendre en main les choses. Et ça, je pense que il faut, de ce point de vue-là, il faut un parti communiste, révolutionnaire. Voilà, il faut qu'un parti communiste révolutionnaire qui s'attache à dire que ce sont les travailleurs, ceux qui possèdent l'arme nucléaire, en quelque sorte, qui doivent être l'aile marchande de tous ces combats-là.
Très bien. Vous, présidente, ça va être une question qui va vous faire plaisir. Quelle place pour vous, c'est-à-dire les jeunes révolutionnaires ?
Bah, y aura une place dans la société, il serait forcément aux avant-postes. Il serait aux avant-postes, là, il y aurait toutes les... à la fois une capacité d'initiative, de... tous les changements révolutionnaires s'appuient d'abord sur la jeunesse.
Ouais. Oui. Vous pouvez me dire next hein, pour la question suivante. Vous, présidente, que devient la 5e République
Ah non, je pense que là, c'est la République socialiste, c'est, ouais. On est dans autre chose.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est bien ce que je me disais.
Ouais, dans le pouvoir des travailleurs. Ouais. Hein, ouais. Dans le pouvoir des travailleurs.
Ouais. Et enfin, vous, présidente, qui est, mais vous allez me sortir une liste longue comme le bras, qui est votre ennemi politique
Moi, une fois au pouvoir,
oui.
Vous dites
quelle est la personne, le groupement à combattre.
Je pense que tous ceux qui conservent un pouvoir économique et social seront effectivement à surveiller.
Bien.
Parce qu'il y a une liberté que je ne reconnais pas, c'est la liberté d'exploiter les autres.
Mmh.
Voilà. Cette liberté-là, elle sera supprimée.
Mmh.
Mais je ne pense pas que ce soit, je pense que c'est ça la justice.
Ouais.
Voilà.
Dernière question, j'ai appris que ça vous embêtait, ça vous agaçait la comparaison avec Florence Artaud et tous les autres Artaud de la Terre en général.
Bon,
c'est toujours
non,
le cas.
Pas du tout, pas du tout.
Bon.
J'ai quand même un avantage sur elle. Et moi, je suis en vie, quoi. Voilà.
Oui, oui, voilà. Complètement. Voilà. Et ça finit.
Non, 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 mais Florence Artaud, en plus, franchement, bon, ben, c'était une exploratrice aussi. C'était une exploratrice. C'était une femme qui a aussi réussi à se faire une place, etc. Bon, maintenant, je pense qu'il faut plus que ça. Justement, ce que portent aussi tous ces navigateurs, là, souvent, y compris surtout en solitaire, c'est l'exploit individuel, etc. Moi, je pense que l'exploit, il sera collectif.
Hein. Oui.
Voilà, il sera... Et qu'en fait, on ne fait rien individuellement, vraiment. Et même les exploits individuels, ils sont pas tout à fait solitaires. Donc l'exploit, ça sera ça. Moi, mon exploit, ça sera de participer au changement de la société.